9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Dany.
Bonjour.
Vous êtes en train de mettre votre masque, vous êtes chanteuse, comédienne, figure du tout Paris des années 70, 80, 90 et même plus.
Tout ça ?
Ouais, vous avez joué dans La Nuit Américaine de Truffaut, qui a reçu un Oscar. Vous avez travaillé avec Gainsbourg, qui vous avait écrit comme un boomerang. Exhumé par Étienne Daho, on va en parler. Vous avez été mannequin, vous avez été photographié par les plus grands. Vous avez une boîte de nuit qui s'appelle L'Aventure. Vous avez tout connu, de la gloire à la descente aux enfers. Vous l'avez même raconté. Et là, votre actualité, c'est un album. Il s'appelle Horizon Doré. C'est au pluriel, avec ce duo inclassable avec Joey Starr qu'on vient d'entendre. Il y a une tournée à venir avec de la musique mais également des textes. Je vais commencer par l'album. C'est déjà un duo avec la guitariste Émilie March. Comment est né cet album? Comment sont nées ces chansons? Comment est né ce duo?
Eh bien là, c'est toujours les rencontres et les rendez-vous de la vie. Donc Émilie, je l'ai rencontrée à la sortie d'un concert à la Cité de la Musique. Elle est venue me voir en me disant « J'aime beaucoup ce que vous faites ». Donc les compliments, c'est toujours un peu embarrassant, mais on les prend. Mmh. Et je lui dis « Qu'est-ce que vous faites ?» Elle me dit « Je joue de la guitare ». Ah, j'ai dit « Je prends votre numéro ». Et comme souvent, avant, je faisais piano-voix, bah là, on a changé d'instrument et elle est venue, on a commencé à bosser. Elle a revisité les chansons que j'avais avec le son de la guitare électrique. Donc c'était très, d'un seul coup, ça avait une autre histoire, les chansons, quand elles sont même anciennes ou un peu, voilà. Et on a commencé à travailler. Sur scène, on est toutes les deux.
Ouais.
Et voilà, le son de sa guitare et la voix, c'était très sympathique.
Le son de la guitare, la voix et aussi les textes. Il y a un titre très très fort, Dany. Ça s'appelle « Je voudrais que quelqu'un me choisisse ».
Je voudrais que quelqu'un me choisisse, que quelqu'un m'aime avant que je moisisse, qu'un garçon vaillant accomplisse ce petit exploit, vouloir de moi. Le premier pas, je le ferai pas. Je laisse le prince charmant faire un peu d'exercice. Moi j'attends, mais faut dire pour l'instant, personne vient proposer ses services. Ses services.
Vous chantez ceci, je voudrais que quelqu'un me choisisse, que quelqu'un avant que je moisisse, qu'un garçon réussisse ce petit exploit, vouloir de moi. Faut oser chanter ça quand même. Parfois ce sont des choses qui se pensent, mais pas des choses qui se disent.
Oui, mais là c'est un texte qui est écrit par Jacques Duval.
Je sais.
Qui est vraiment un bijou.
Et non mais quand bien même soit... est-il écrit par Pierre-Paul ou Jacques, faut oser, quand on est la femme que vous êtes, chanter ça, je vois que quelqu'un me choisisse.
Mais c'est de la dérision, de l'humour, de la distance, et puis bien sûr que j'aimerais bien que quelqu'un me choisisse.
Je ne m'attendais pas à ça du tout.
Bah oui, pourquoi pas.
Qu'un garçon se réussisse ce petit exploit, vouloir de vous. Il y a d'autres titres historiques. Oui, de vous. Elle montre, elle fait comme ça avec son doigt, elle dit de moi. Il y a aussi Haine comme Never Again. À la base, c'est un titre avec Jean-Jacques Burnel, le bassiste des Stranglers.
Oui, on avait fait un album avec les Stranglers.
Ouais.
Et cette chanson, Jean-Jacques est d'abord un très très grand bassiste. Et puis surtout, il manie très bien la langue française. Il adore... quand on chante, j'ai fait un duo aussi avec lui sur un disque avant, là, Me and You. Et voilà, donc on a repris cette chanson qui, une petite virgule, elle est très courte cette chanson, mais je la trouve très puissante.
Il y a d'autres musiques qui sont signées Alain Chamfort ou Keren Anne, je cite les têtes d'affiche. Il y aura une tournée, un spectacle qui avait été annulé, déplacé pour cause de Covid. Ça sera, il y a plein de dates en France, je vais citer le Bataclan, ça sera le 30 septembre à Paris, avec des textes. Alors je les cite, Anaïs Nin, George Sand, Marilyn Monroe, Simone Virginie Despentes, François Sagan, que des femmes. C'est quoi l'idée? On va entendre de la musique, on va entendre des textes, ça va être mélangé. Qu'est-ce qu'on va voir sur scène?
Non, l'idée, c'est qu'avec le temps qui passe, il me semblait très sympathique de transmettre des écrits de ces femmes ou ce qu'elles ont vécu et des situations où déjà elles menaient un combat pour les femmes. Donc je lis de Georges Sand avec Musset, par exemple, qui lui piquait toute sa correspondance. Marilyn Monroe, ce qu'elle disait sur les hommes, et c'était pas rien. Ouais.
Vous n'avez pas répondu à ma question, Dani.
Ah, j'ai pas, c'est quoi ?
Vous allez chanter et ensuite dire les textes. Dire les textes et chanter, non, bah, intercaler. C'est... Qu'est-ce qu'on va voir ?
Alors non, bah, c'est, ça va être un petit bout de texte, une chanson, une autre chanson, un petit bout de texte. Ça s'embringue avec les chansons et les textes.
J'adore ce mot, ça s'embringue. Pour reprendre Dani, pour vous paraphraser, merci d'avoir choisi Culture Média. L'émission continue. Dani est avec nous, donc avec vous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Dani, la chanteuse Dani. Elle chantait pas, elle s'est remise à chanter. On va justement en parler. Et elle vient de sortir cet album dont le titre m'échappe à l'instant, avec le duo avec Joey Starr qui s'appelle Kesta. Et l'album s'appelle Horizon Doré. Vous avez été au sommet, vous étiez au plus bas, vous l'avez raconté, vous avez vécu des choses très très dures. Vous avez même plongé dans la drogue dure, l'héroïne, vous n'avez pas fait mystère. Et d'une certaine manière, Dani, c'est Étienne Dao qui vous a tiré de là. Que vous a-t-il dit ?
Quand on a un gros chagrin, moi c'est personnel dans ma famille, il m'a dit le meilleur médicament c'est de que tu chantes. J'ai dit mais qu'est-ce que je vais chanter à 40 ans, je suis pas le perdreau de l'année, enfin tout ça. Ouais. Et il m'a dit si il y a une chanson. Donc il est allé chercher cette chanson que Serge avait écrit pour l'Eurovision.
Serge, c'est Serge Gainsbourg.
Serge Gainsbourg.
Excusez du peu.
Et il m'a dit, il faut que tu la fasses. Donc on a commencé à bosser, on est allé en studio. Il m'a fait la voix lead pour, quand on est en studio, pour que je me mette bien, que je sois bien en
pour
place.
Pour se caler, comme au ski quand on fait la trace.
Voilà, c'est ça, exactement. Et quand on a fait le mixage, le monsieur qui était au son, il montait comme ça, la voix d'Étienne, la mienne et tout ça. Et Étienne a dit, mais c'est un duo, et on l'a fait en duo. Et j'étais très contente parce que... de revenir chanter, de ne pas être toute seule, c'était très confortable.
Ouais. Et c'est d'autant plus beau que ce soit un duo, parce que la chanson va et revient, elle s'appelle Comme un boomerang, 350 000 exemplaires vendus, et on l'écoute toujours, Comme un boomerang, Dani Étienne Dao.
Je sens des bombes et des bandes agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, c'est une histoire de dingue, une histoire bête. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrai.
Dani, oui. C'est vrai, on y a ce titre, c'est vrai que vous avez un trésor qui est au coffre, une version sur laquelle vous chantez en duo avec Gainsbourg, ou c'est de la légende ?
Non, non, c'est pas de la légende, parce que quand on a fait la maquette pour envoyer à l'Eurovision, on était en studio, donc il me montrait comment il fallait la chanter. On l'a fait ensemble. Mais c'est Étienne qui a toutes ces petites maquettes comme ça. Mais
qu'est-ce que vous allez en faire ? Parce qu'on a tellement, tellement envie de les entendre. Vous gardez ça pour vos vieux jours ?
Ah non, mais moi, je
ne
garde rien. Je donne tout ce que j'ai.
Non, mais vous n'avez pas envie de la publier ? Parce qu'évidemment que ça va se vendre si vous faites ça.
Je ne sais pas si ce n'est pas une trahison. Ou je ne sais pas, je trouve que... Ça, c'est avec Étienne qu'il faut voir ça.
Et les ayants droit peut-être de Gainsbourg aussi ?
Non, non, parce que les ayants droit, Charlotte, lui et les... deux autres enfants sont très cool et non, c'est un choix artistique, il me semble. Là, on a donné déjà l'année dernière ou il y a deux ans sa voix toute seule où je dis trois mots dessus.
Ouais.
Mais c'est le son maquette, c'est pas c'est une espèce de document qui est pas flatteur, je crois.
D'accord, mais on a quand même envie de l'entendre comme un document. Votre histoire est absolument dingue par rapport à la chanson. À la base, vous n'étiez pas chanteuse.
Moi, si j'étais pas chanteuse, non.
Quand vous avez démarré ?
Ben non, j'étais. Je voulais faire les. Je faisais les beaux-arts et l'école d'esthéticienne.
Ouais.
Et puis après, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que je serais très mignonne en photo.
Ouais.
Donc j'ai commencé à faire des photos. Après, j'ai rencontré Jean-Marie Rivière. Avec lequel
c'est
j'ai fait
Jean-Marie
l'Alcazar.
Vous étiez meneuse de revue à l'Alcazar.
Oui, là, oh ça là me là. Plaisait beaucoup. C'est comme, c'est un musical. Quand on dit musical, c'est un peu ancien, mais c'est cabaret avec des tableaux, des spectacles, de l'humour, beaucoup, rendez-vous magique.
Je suis obligé de résumer votre vie. On vous fait un disque à un moment donné. Vous sortez un 45 tours qui est un bide, mais quand même, vous faites une double page dans Paris Match, et puis il y a un tube qui se vend à plus d'un million d'exemplaires. On est en 68.
Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. C'est une gentille petite bretonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Toute la famille, tante Clara, tante Lison, tante Camille, ne viennent plus à la maison, car ça, personne ne lui pardonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa.
C'est dans le contexte de l'Alcazar, parce que tous les garçons venaient sur scène avec moi pour chanter cette chanson. C'était très très gai.
Mais on était en mai 68, c'est complètement déconnecté de la réalité
sociale.
Parce que
j'aime pas du tout le mot bonne.
Ah oui.
Je trouve que c'est un peu dévalorisant.
Bah oui, il a pris un coup de vieux ce mot.
Et là, c'était une chanson qui a eu un succès fou.
En revanche, la révolution sexuelle passe par là. 69, année érotique, pour paraphraser Gainsbourg. En 71, vous aviez chanté La vie à 25 ans, vous vous souvenez, pour l'Eurovision?
Bah oui.
Vous vous souvenez dans le passage qu'il y avait comme phrase?
Comme disait le vieux, c'est jusqu'à quel moment?
Il n'y a pas de mal à se faire du bien.
Ah bah oui, bien sûr.
Pour l'Eurovision ?
C'était pour l'Eurovision.
Avec un petit passage sur la masturbation, quand même, l'époque a un peu changé. Hein.
Ah bon ?
Ah
il
n'y
a
bon
pas de mal à se faire du bien.
Ouais.
Ah oui, vous l'avez lu comme ça ?
Bah, tout le monde, hein, je vous signale.
Bon,
si vous ne l'avez pas vu comme ça, vous êtes la seule. Je vous dis juste ça. Dans un instant, on va se faire du bien avec Olivier Pouls, dans un genre tout à fait différent. Il va nous faire découvrir des fleurs, les roses, vous connaissez
ça, oui,
par cœur,
Dany,
mais des plantes très gourmandes. À tout de suite.
Me voilà bien.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Dany, chanteuse, mannequin, quelle histoire, quel parcours. Vous faites la roue de la vie qui tourne. Vous avez également lancé la marque Au nom de la rose, des boutiques de fleurs.
Ouais.
Vous l'avez plus. Vous aimez toujours les roses et les fleurs?
J'adore toujours, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Et j'ai découvert dans votre autobiographie La nuit ne dure pas chez Flammarion, c'était en 2016. Vous racontez que vous avez été éjecté de la société au point que vous avez fait un chapitre intitulé Lettre à l'usage des jeunes générations pour détecter les salauds.
Oui. Bien sûr, parce que je pense que, bon, alors, il faut avoir la casquette businesswoman, la casquette création, la casquette on va chercher les roses, on plante des variétés, on travaille avec des rosieristes et tout ça. Et après, les papiers, les comptes. Mais c'est pas grave, c'est du passé. Moi, ça va, c'est digéré. Mais par contre, le mec, j'espère qu'il vivra toute sa vie. Il aurait voulu avoir l'idée, en fait.
Ouais.
Donc, on s'en fout, c'est derrière, c'est passé. C'était pas très joli, son histoire. Et voilà.
On ne le citera pas, le silence punit l'insolence.
Voilà.
En revanche, je vous ai cité un mot qui m'intéresse, le mot digérer. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis.
Vous avez vu l'enchaînement?
Bonjour Dany, oui. Bah
parce
oui.
que vous allez nous faire manger des fleurs.
Mais des roses en l'occurrence, pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà tenté de les manger, les roses que
bien
vous
sûr.
Que vous
ah bon,
c'est délicieux.
Mais bien sûr.
Comment?
À cru comme ça, c'est très bon. Et alors moi, ce que j'avais fait une fois, c'est une tarte avec que des pétales de roses.
Alors,
c'est très, très bon.
Les roses font effectivement partie de la famille des fleurs comestibles, il y en a beaucoup.
Oui.
Toutes les variétés de roses se mangent, figurez-vous. On peut en manger les pétales.
Ouais.
Alors, on peut les manger tout simplement à cru, comme vous le disiez. Vous mettez quelques pétales de roses dans une salade.
C'est
d'abord,
magnifique.
C'est très joli, ça claque, comme on dit, mais en plus, c'est bon.
Ouais.
C'est très soyeux, même dans la texture.
Pardon, mais ça a quel goût?
Ben, c'est le goût de la rose.
Goût. Ah ben voilà, c'est vrai que j'ai posé une question débile. Hein, mais... Donc, pardon, j'apprends pour moi, c'est moi.
Mais ça n'a pas le goût du saucisson.
Ouais, ouais,
il faut qu'elle soit cultivée aussi sans produits chimiques.
Absolument, il faut
des
roses bio, oui.
Le rosieriste Jean-Claude Boucreux, avec lequel je passe beaucoup de temps depuis assez longtemps, il a fait un tunnel avec justement pour pouvoir. Et les feuilles des tiges. C'est très très bon en tisane.
Ça s'infuse
et
parfaitement bien.
Et ça fait aussi
ouais.
dans les salades, c'est très très bon.
Alors,
donc allez-y, pardon.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des petits pétales de rose cristallisés. C'est très
ouais.
facile à faire, c'est délicieux. Vous prenez des pétales de rose, vous recyclez le bouquet de la fête des mères par exemple.
Ouais.
Prenez les pétales de rose, vous les passez dans un blanc d'œuf. vous les saupoudrez de sucre.
Du sucre
et
glace.
Vous les laissez sécher dans un four à 40-45 degrés pendant 3 heures. Et vous allez avoir des petits pétales de rose cristallisés qui vont croquer sous la dent et libérer des arômes de rose. Vous pouvez aussi acheter dans les boutiques ce qu'on appelle de l'eau de rose alimentaire. Ouais.
Qu'est-ce que c'est l'eau de rose en fait ? Je connais ce titre, mais je ne sais pas ce que c'est.
Oui. L'eau de rose.
L'eau de rose, ce sont des infusions de pétales de rose. Alors, il n'y a pas de distillation, il n'y a pas d'alcool. Hein. C'est vraiment l'eau qui a capté les arômes de la rose. Ça sert beaucoup dans les pâtisseries.
Ouais.
Un certain nombre de pâtisseries orientales, notamment. Pierre Hermé fait un macaron, le macaron Ispahan, c'est litchi rose en termes de saveur.
L'eau de rose à Gadez, au Maroc, il y a une vallée où ils sont les plus forts pour faire l'eau de rose. Parce que l'eau de rose, c'est le matin qu'il faut recueillir les petites gouttes qui sont à l'intérieur, la vraie eau de rose. Mais bon, je pense que celle qu'on...
Elle est rarissime et très chère.
C'est magique, ça.
Mais très, très cher, le petit flacon comme ça vaut très, très cher. Et ça a un goût quand même très, très évident. Hein.
Vous parlez de rose,
il y a d'autres fleurs, évidemment.
C'est ma question. Est-ce qu'il n'y a que la rose
ou non ? Non, il y a beaucoup de fleurs qui peuvent se manger. Par exemple, en ce moment, vous savez, les fleurs de vos plantes potagères, la ciboulette, par exemple, ou la coriandre qui sont en fleurs. Vous mangez vos fleurs de ciboulette, vous les coupez en petits morceaux dans une salade. C'est extraordinaire.
Ça, c'est si on a la chance d'avoir, un jardin. Est-ce que c'est en vente parfois ?
Alors, c'est de temps en temps, sur les marchés, si vous êtes des producteurs, vous allez avoir la ciboulette avec les fleurs en ce moment dessus. Ça peut se trouver. Vous savez, une petite balconnière, vous plantez de la ciboulette dedans, ça marche extrêmement bien. Vous avez les fleurs de courgette, évidemment.
Oui, ça c'est comment ?
C'est délicieux.
Mais alors, vous avez par exemple les pétales de géranium aussi, qui sont comestibles et qui s'infusent. Le géranium, c'est une saveur qui est très intéressante.
Mais j'ai toujours cru que ça avait un goût infernal et que c'est même ça repoussait les insectes, que c'était pas bon le géranium. Vous n'avez pas tous entendu ça ? Ça fait rire Mélanie Gomez. Vous avez entendu ça ?
C'était toxique, moi.
Moi aussi, j'osais pas le dire.
Non, il y a des préparations à base de géranium.
Ouais, super.
J'ai goûté. Anne-Sophie Pic, qui était chez Laurent Mariotte avec nous dans notre bande des bons vivants samedi dernier, avait apporté un beurre infusé notamment au géranium.
D'accord.
C'est très intéressant.
Il y a les pensées aussi.
Oui, il y en a plein. C'est vrai
qu'il y a beaucoup de fleurs qui se mangent.
Et des fleurs qu'on trouve presque dans la forêt. Enfin, il y a quelques bouquins qui existent. Et puis, faut pas manger n'importe quoi. C'est comme les champignons, attention, parce qu'il y a aussi des fleurs qui sont toxiques.
Ouais. Donc, et vous savez quoi, mesdames, messieurs, on n'a pas le temps de vous donner le nom des fleurs toxiques. Ne prenez aucun risque. Allez-y sur la rose, le géranium et la courgette. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On vous retrouve tout à l'heure à 16h dans Historiquement Vôtre et chaque samedi à 11h dans la table des bons vivants, vous l'avez dit, avec l'ami Laurent Mariotte. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Mélanie Gomez et un livre assez étonnant, mais d'abord musique avec Dua Lipa.
C'est vrai, hein, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. 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 Again.
So many nights my tears fell harder than. You
Love Again, c'était Dua Lipa sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Mélanie Gomez. Elle va nous faire découvrir un guide très complexé. On est un peu dans l'ambiance Love Again. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Dany et avec Mélanie Gomez. Bonjour.
Bonjour.
C'est votre première dans Culture Média. On est enchantés de vous recevoir. Et Mélanie, vous avez voulu nous parler d'un bouquin qui vous a particulièrement plu. C'est même un guide. Ça s'appelle Le guide gynéco joyeux et décomplexé, paru chez First. L'auteur, c'est Juju la Gigi. Quel rapport avec la culture ?
Je dirais plutôt que c'est un rapport avec le manque de culture, que ce soit des hommes et des femmes sur tous ces sujets-là. Donc je me suis dit, tiens, dans Culture Média, on va faire un peu de culture, mais scientifique, gynéco, intime.
Et je dois dire, c'est presque un livre illustré.
C'est, ah oui,
c'est à la
limite
de la BD. C'est presque une BD.
Dany regarde avec beaucoup d'attention, j'ai remarqué,
oui,
parce qu'il y a beaucoup
gay,
de dessins.
Drôle, hein.
Dessins intimes. Alors Juju la Gigi, elle s'appelle,
c'est
l'auteur.
C'est un pseudo ?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Alors elle est gynécologue quand même. Hein.
Ouais.
C'est un pseudo, mais elle est gynécologue obstétricienne depuis une dizaine d'années. Elle est aussi féministe et maman de 3 petits garçons qui, elle le dit elle-même, seront bien avant la puberté, eux, comment fonctionne le corps d'une femme. Alors ce bouquin, pourquoi il est génial ? Tout simplement parce qu'il parle avec beaucoup d'humour de tout ce qui peut nous arriver, mesdames, en consultation chez le gynécologue. Il faut dire ce qui est, ce passage obligé au mieux une fois par an, même après des décennies, je sais de quoi je parle, on n'y va jamais en sautillant gaiement, moi perso. Et pourtant, vous savez, hein, je suis Mélanie Gomez, madame santé d'Europe 1. Je sais exactement ce que le gynéco va checker quand j'ai les jambes en l'air et que j'attends comme ça désespérément qu'il fasse son travail. Moi, en gros, je fixe le plafond et j'attends que ce soit fini malgré tout. Alors, en lisant ce bouquin, honnêtement, on se détend, on apprend plein de choses sur son anatomie, je vais y revenir. Mais aussi qu'en fait, nos gynécos, eh ben, ce sont des gens comme tout le monde. Et oui, moi, franchement, savoir que Juju la Gigi, donc cette gynécologue, elle a déjà eu des fuites de règles avec un pantalon blanc sur son lieu de travail, eh bien, ça m'a quand même un peu détendue.
Ouais, Dany fait une drôle de tête, tu m'étonnes qu'elle ait pris un pseudo. Alors, quand même, dans ce bouquin, elle reprend les bases d'anatomie féminine. Justement, est-ce que c'est pas un peu basique en mode cours SVT pour les nuls ?
Ben, pas du tout, Philippe, hein, parce que vous, les hommes, ça vous paraît peut-être un peu obscur ce que c'est précisément une vulve. Alors, je vous donne un indice, c'est tout ce qui est à l'extérieur, en gros, chez nous. Hein. Mais sachez que pour les femmes, eh bien, c'est guère mieux. Pourtant, on vit avec depuis la naissance, tous les jours. Quelle femme c'est, par exemple, qu'elle a une fourchette vulvaire, que les petites lèvres portent mal leur nom, parce qu'elles sont finalement plus longues, plus grandes que les longues. Hein, voilà. Eh bien, on n'est pas nombreuses. Et puis, Juju la Gigi, surtout, elle raconte dans le bouquin, avec plein de dessins, des tas d'anecdotes, comme cette femme qui est arrivée un jour dans son cabinet en lui disant « Docteur, docteur, il faut que vous regardiez là en bas, j'ai un gros bouton, et puis quand je touche, ça fait tout bizarre. » Eh bien, bingo, elle venait de découvrir son clitoris. Alors celle-là...
Mais là, on n'est pas en 55, non. On essaie de maintenant.
Mais c'est ça, c'est de
incroyable,
2021. Alors
incroyable.
Celle-là, c'est vrai que cette anecdote-là, elle fait un peu sourire, ouais. Mais c'est véridique et ça illustre surtout très bien cette méconnaissance que même nous, les femmes, on a de notre propre anatomie.
Et donc, dans le bouquin, il y a des dessins pour bien visualiser une fois pour toutes où tout se trouve, à quoi ça sert. Très joli, dit Dany, et vraiment, elle ne le dit pas pour vous faire plaisir. Maman, c'est très, très esthétique et très presque vaporeux.
Exactement, c'est des illustrations qui sont vraiment superbes et rigolotes à la fois et que cette gynécologue, d'ailleurs de talent, dessine elle-même. Hein. Et grâce à elle, tout, vous saurez tout sur la zézette, la foufoune, la minette. Après avoir lu le livre, vous saurez même peut-être, Philippe, en dessiner une. Parce que ça paraît idiot, mais qui sait dessiner un sexe féminin ?
À part
vous...
Picasso, je vois
ben
pas.
Voilà, vous savez tous dessiner, j'imagine. On vous dit dessine un zizi. Ouais. Bah, vous faites deux ronds, un petit truc allongé, puis hop.
On a l'image.
Le
on a
tour
l'image.
Est joué, mais l'appareil génital féminin, c'est vraiment hyper complexe, délicat, le clitoris.
C'est
voilà, et ses racines, les petites lèvres, les grandes, le méa urinaire, l'orifice vaginal, les glandes de Bertoline. C'est pas joli, ça ? En fait, on dit que les hommes, vous avez des bijoux de famille, mais avec ce bouquin, on comprend que nous, les femmes, on a encore mieux.
Voilà.
On a carrément un trésor d'architecture.
Et alors, dans son bouquin, Juju la Gigi, elle donne aussi des astuces aux femmes pour déstresser, justement, vous en parliez, avant d'aller à son rendez-vous chez le gynéco, des trucs très pratiques.
Bah oui, elle répond à des questions existentielles que seules nous, les femmes, nous posons. Dany, vous n'êtes jamais demandé comment je dois m'habiller pour aller chez le gynécologue ?
Ben d'abord, moi personnellement, je vais toujours chez une femme parce que...
Il y en a qui préfèrent, ouais. Effectivement, c'est
non,
un choix.
Ben mais... Je mets un pantalon normal. Ouais.
En tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est la salopette, la robe. Parce qu'en gros, une fois que vous l'enlevez, ben, vous êtes nu comme un verre toute la consultation. Il faut éviter aussi en hiver les 25 couches hyper moulantes parce que là, sinon le rendez-vous il va durer des plombes. Et en fait, la tenue idéale, je vous la donne, c'est la jupe ample avec un haut séparé. Parce que ça permet d'avoir à enlever que la petite culotte. En fait, vous avez votre petite jupe, vous enlevez la culotte, vous la soulevez pour l'examen du bas et puis vous gardez du coup votre t-shirt et puis quand on passe à l'examen des seins, il n'y a plus qu'à le t-shirt à enlever, vous avez toujours votre jupe, donc à aucun moment vous êtes toute nue. Mais oui, j'ai trouvé que c'était vraiment un super conseil pour les filles surtout qui sont gênées. Et puis pour finir, Juju la Gigi, elle répond à une autre question existentielle que tous les gynécos entendent au moins une fois par jour. Docteur, faut-il s'épiler pour venir vous voir ? Oui, je vous jure, tous les jours, il y a au moins une femme qui en se déshabillant dans son cabinet dit « Docteur, excusez-moi, je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de m'épiler. » Et vous savez ce qu'elle répond, Juju la Gigi, et moi j'ai trouvé ça génial. Elle leur dit « Mais vous inquiétez épilez pas, madame, ça tombe bien, moi non plus, je suis pas épilée. Et ça, j'ai trouvé que ça m'était super à l'aise. D'ailleurs, si les gynéco-hommes nous écoutent, hein, qu'ils n'hésitent pas à dire ma femme non plus n'est pas épilée, ça peut détendre aussi. Ah. Voilà, parce que mesdames, je vous le dis une fois pour toutes, les gynécos, ils s'en fichent pas mal de nos poils. Les poils, c'est naturel. Ça gêne pas du tout l'examen médical. C'est pas irrespectueux non plus pour le docteur. Et alors, évidemment, si vous y tenez absolument, bien sûr, faites-le, épilez-vous, mais uniquement si ça vous fait plaisir et pas pour des raisons médicales.
Le guide gynéco joyeux et décomplexé de Juju la Gigi, paru chez First Edition. C'est pas facile à dire parce qu'on a un masque. Ça vous a plu, Dani?
Moi, ce livre, il est très intéressant. Je trouve plus qu'intéressant. Il est gay, il est drôle. Et on parle de quelque chose qui sera toujours mystérieux. La foufoune des femmes.
Et elle sera notre invitée dans son rendez-vous demain à 15h en plus.
Formidable. Dans l'émission, sans rendez-vous avec le docteur Jimmy Mohamed. Merci beaucoup, Mélanie Gomez. Quelle première dans un instant. C'est la dernière ligne droite de l'émission avec Dani, notre chanteuse.
Mais je voulais lui demander.
Allez-y.
La femme du gynécologue. Moi, je sais pas, je trouve ça dur.
C'est pour ça que j'ai épousé un restaurateur, mon voyage. Voilà, bon.
Quel coming out. Voilà. Culture Média continue. Il y a qu'ici qui se passe des choses pareilles. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
En compagnie de Dani, son nouvel album, il s'appelle Horizon Doré. Il est sorti juste avant le Covid. C'est un titre presque anti-prémonitoire.
Bon, je sais pas, c'est encore un rendez-vous de la vie, parce que moi, Horizon Doré, avant qu'il y ait la Covid, je me disais, ça c'est un titre pour tout le monde, qu'on peut partager, on rêve que tout le monde soit bien, personnellement.
Moi aussi, tout le monde.
La terre entière soit bien. Mmh. Et puis après, avec cette histoire de Covid, ça a pris une autre dimension. Enfin, on peut avoir un autre regard dessus.
Voilà, c'était sombre et l'horizon redevient doré. Quelques notes et on en parle ensuite.
J'ai compté en jours, en mois, j'ai compté en années. Souvent, je regrette de savoir compter. Je me suis battu pour et contre, je me suis battu tout court. Jamais je regrette de m'être battu. À quand les horizons dorés? À quand la vie pour ce qu'elle vaut? À quand la peau contre la peau? A-t-on des raisons d'espérer? Oh, oh. Les horizons dorés.
J'aime bien le texte. J'ai compté en mois, en années, et puis j'ai arrêté de compter. Qui a écrit les paroles?
C'est Pierre Grillet qui a écrit.
Pierre Grillet qui avait écrit C'est la Ouate, mais
et
aussi.
Et surtout Madame Rêve. Et
Madame Rêve de Bachung. Ouais. Vous dites que vous êtes toujours un petit peu senti dans la peau d'une usurpatrice, toujours, ou ça y est, maintenant vous dites je suis une vraie chanteuse? Ou est-ce que vous vous sentez à votre place?
Ben, quand, je sais pas, il me semble que je suis un interprète de ces jolis mots sur des notes de musique. Et, voilà, chanteuse, c'est un, d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous avez passé des anciens disques, j'ai la voix un peu plus perchée.
Ouais. Après. Attendez, dans votre autobiographie, vous racontez que Gainsbourg disait de votre voix, elle a une voix de pétasse.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Oui, mais bon, dans sa bouche, ce mot-là, c'était pas.
Et en plus, il vous a fait chanter. Oui. L'effet compte plus que les mots.
Oui, non, c'était. Vous savez, après, il m'appelait ma cocotte. Enfin, vous savez, les mots de Serge ou d'autres hommes, d'ailleurs, qui font ça.
Autre homme, je vous interromps, tellement dingue. Vous avez tourné avec François Truffaut dans La Nuit Américaine. Vous étiez la petite amie de Jean-Pierre Léaud. Ce qui est dingue, c'est votre rencontre. En fait, Truffaut tombe vraiment sur vous, dans la rue, en bas de chez lui?
À la boulangerie, à côté de l'école de mon fils.
Ouais.
Et puis, j'avais dû avoir une photo très jolie dans un magazine. Il m'a dit, elle est bien, cette photo.
Ouais.
Et il me dit, mes bureaux sont là. Alors, j'ai dit, est-ce que je pourrais monter voir mon fils à la récréation? Alors, on a commencé à se voir comme ça. Je suis allé au bureau, je regardais les jumelles.
Incroyable.
À la récréation.
Ah, vous regardiez du bureau de chez Truffaut, votre fils à la récré?
Oui, oui, pour savoir qu'est-ce qu'il faisait. Bon, tout ça, c'est des anecdotes. Alors oui, c'est François qui m'a mis sur le chemin un peu du cinéma. Après, j'ai rencontré dans le cinéma aussi des gens comme Daniel Thompson, Alex Lutz quand même. Guy, ce film, c'est un film fantastique. J'ai fait un film de mec aussi, Olivier Marchal.
Ouais, donc, est d'accord. Juste un mot, vous avez vraiment refusé le film de Truffaut, Une belle fille comme moi?
Oui.
Vous regrettez?
Non.
Vous regrettez jamais rien dans la vie?
Non, parce que c'était. Il me semble que Bernadette Lafont était mieux que moi. Elle était plus ronde, elle n'avait pas de problème, elle n'était pas complexée de son corps, tout ça, quoi.
Vous avez dit en parlant de regrets, c'était au JDD l'an dernier. Au moment de la sortie du disque, vous disiez, quand je fais le bilan, il me semble que ma vie a été chaotique, mais je n'ai aucun regret, même pour la drogue.
Oui.
Pourquoi même pour la drogue ?
Ben, quand on se sort d'une expérience comme ça, et que j'ai eu la chance d'être très très bien entourée, avec une famille très aimante et qui m'a soigné psychologiquement surtout. Voilà, c'est... Après, je conseille à personne, mais... L'étoile qui me protège.
Elle vous protège très très bien, cette étoile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dany. Je rappelle votre album Horizon Doré, tournée à venir. Il y a toutes les dates qu'on peut retrouver sur Internet. Et je vais quand même citer le Bataclan, ça sera le 30 septembre à
septembre.
Paris. Voilà, 30 septembre. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média revient demain, évidemment. On va parler d'un documentaire de quotidien sur les adultes de demain, autrement dit les ados. Nous serons avec son réalisateur Emmanuel Lebert. Et puis le groupe Feu Chatterton pour son nouvel album, juste après le flash. Vous aimez bien Feu Chatterton ?
Oui.
Ça tombe bien, moi aussi. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça s'appelle Ça fait du bien. Je vous dis à demain. Merci encore, Dany. Au revoir.
Belle journée.
Belle journée à vous.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.